Europe 1, 13h, 14h, les carnets du monde.
Carnet du monde.
Дневники мира.
Europana.
Европа 1.
Bem-vindos nos cadernos do mundo.
Sophie Larmoyer.
Bonjour tout le monde, soyez les bienvenus dans les carnets du monde. Embarquement immédiat pour une heure de vadrouille. Et nos premiers pas seront en Pologne. Vous savez, c'est là-bas que s'ouvre la COP24. Là-bas que les ONG, scientifiques du monde entier, les chefs d'État et de gouvernement aussi vont discuter du climat et de l'urgence à prendre des décisions pour préserver la planète. Eh bien, la Pologne, en la matière, c'est le pire élève de l'Europe. La première source d'énergie là-bas, pour longtemps encore, c'est le charbon. Reportage de Théo Manval à suivre entre brouillard de pollution et particules fines. Et puis on descendra à la mine, carrément, chez le voisin allemand, à plus de 1000 mètres sous terre. On accompagne les tout derniers mineurs de fond.
Tous les jours, un ou deux mineurs raccrochent le casque et quittent la mine à jamais. Tous les jours. Moi, je ne me projette pas vraiment encore. Mais je crois bien que je vais souvent me planter devant la porte de la mine, juste pour voir les collègues finir de fermer les galeries.
Prévoyez la lampe frontale pour descendre tout à l'heure dans la mine de Bottrop dans la Roure. Elle ferme dans quelques jours. On va partager ce moment historique grâce à Hélène Cole. Vers 13h30, c'est dans la plaine de la Beka qu'on suivra Jean-Jacques Herry. Il est allé rencontrer des Syriens réfugiés là, au Liban voisin. Alors que de plus en plus, on évoque pour eux un retour au pays, ces familles concentrent tous leurs efforts pour se nourrir et se loger au quotidien. Et puis on ira aussi en Espagne, dans un petit village d'Aragon qui se vidait inexorablement. Plus de services publics, plus de boulot et une oliveraie magnifique laissée à l'abandon. Jusqu'à ce qu'une idée germe, faire appel à des donateurs pour parrainer des oliviers.
Chaque olivier a son QR code inscrit sur une étiquette. Ici, par exemple, c'est l'olivier d'Inès et de Nati, le numéro 279 du champ de la vallée.
Les parrains viennent visiter leur olivier et font revivre le village. Reportage enthousiasmant à suivre, signé Henri de Laguérie. Nicolas Carreau viendra, comme chaque dimanche, nous faire découvrir un auteur étranger avec aujourd'hui un recueil de nouvelles venues des Balkans. Et Joseph fermera le bal avec ses pensées du jour, toujours singulières, venues tout droit d'Autistan. Les carnets sont ouverts, direction la Pologne.
Europe 1, les carnets du monde.
La COP24 s'ouvre aujourd'hui à Katowice, c'est dans le sud de la Pologne. Les pays du monde vont faire le point sur leurs efforts, mis en place ou pas, pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre et limiter le réchauffement climatique en dessous de 2 degrés d'ici la fin du siècle. Et c'est un comble. Figurez-vous que cette COP est parrainée par le plus gros producteur de charbon d'Europe, qui est polonais. Le pays est l'un des plus mauvais élèves du continent. Les deux tiers des villes les plus polluées d'Europe se trouvent en Pologne. La pollution de l'air est un fléau là-bas, lié surtout à l'utilisation massive du charbon, qui représente 80% de la production d'énergie. Presque tout le monde l'utilise pour se chauffer. On va vous expliquer tout ça avec Théo Manval, juste après avoir écouté ensemble son reportage à Varsovie.
Une épaisse fumée s'échappe de plusieurs toits.
Beautiful white cloud.
Un beau nuage blanc plaisante Monica en descendant du train qui la ramène du travail dans son quartier de Wawer, l'un des plus pollués de Varsovie. Ici comme ailleurs, la majeure partie des gens se chauffe au charbon, souvent le moins cher, très chargé en soufre.
Les cheminées et les chaudières ne respectent pas les normes d'émission. Pour le charbon, on ne sait pas non plus ce qu'on achète. Et en plus, les gens brûlent leurs déchets pour faire des économies. C'est très toxique.
C'est difficile même de respirer ici le soir.
Bien sûr, on court pour aller de la maison à la station de train. J'essaye de couvrir mes cheveux, mais l'odeur reste. Des fois, ma fille me dit « Maman, tu pues !» Ce quartier qui était pourtant vert est devenu une malédiction.
Alors Monica s'accroche au purificateur d'air installé dans son appartement. Elle y a investi l'équivalent de 160 euros pour cet hiver. Mais Varsovie est loin d'être le seul endroit touché. 33 des 50 villes les plus polluées d'Europe se trouvent en Pologne. Le smog, ce brouillard de particules fines, envahit les rues dès qu'on commence à se chauffer. J'ai vécu 6 ans en Scandinavie, explique Agnieszka, mère de 2 jeunes enfants, et je n'ai été malade qu'une seule fois. Depuis que je suis revenue ici, dit-elle, c'est 3 ou 4 fois chaque hiver.
On a plus d'infections des voies respiratoires. Mes enfants sont nés à Stockholm, ils jouaient tout le temps dehors et là-bas ils étaient sains. Quand on est arrivé à Varsovie, les problèmes ont commencé. De l'asthme, des allergies, des infections des bronches. Aujourd'hui on tombe malade les uns après les autres.
Et ces conséquences sur la santé des Polonais, l'Agence européenne de l'environnement les a chiffrées. La pollution de l'air fait 50 000 morts par an dans le pays. Il suffit de pousser les portes de l'hôpital régional de Mazovie pour s'en rendre compte. Le docteur Aneta Gorska-Kot dirige le département pédiatrie. Elle voit défiler des dizaines d'enfants chaque année.
Nos études ont montré que dans plus de 60% des écoles primaires, les normes de pollution sont largement dépassées. Ces enfants ont 25% de risque en plus de contracter des maladies respiratoires. Donc ça peut entraîner de l'asthme et ensuite à l'âge adulte, des bronchites chroniques, des cancers du poumon. Mais j'ai le sentiment qu'en Pologne, on parle toujours trop peu de l'impact de la pollution sur la santé. On devrait imposer des mesures de régulation.
Sauf que réguler le secteur du charbon, c'est s'attaquer à une industrie puissante, forte de 100 000 emplois. Au début du mois de septembre, le gouvernement polonais a tout de même fait passer pour la première fois une loi prévoyant d'interdire les combustibles les plus polluants. Une victoire à première vue pour les associations environnementales. Mais c'est en fait un trompe-l'œil, soupire Marek Józefiak, responsable de Greenpeace Pologne.
Le sous-produit du charbon, très mauvais pour la santé, a obtenu un délai de 2 ans. Ça veut dire qu'il pourra encore être vendu aux gens jusqu'en juin 2020. Donc ça, c'est très décevant pour nous. En plus, le ministre de l'Énergie prévoit de construire une nouvelle centrale à charbon là où il a été élu, à Ostrovenka. C'est juste scandaleux, surtout pour un pays qui va accueillir la COP.
Et ce nouveau projet à 1,5 milliard d'euros devrait en effet voir le jour, même si une association de juristes écolos a porté plainte pour s'y opposer. Pendant ce temps, la part des énergies renouvelables en Pologne est en baisse, selon les derniers chiffres officiels. Seulement 11% de l'énergie produite dans le pays. À Varsovie, Théo Manval, Europe 1.
Retour dans le studio d'Europe 1 pour aller un peu plus loin avec Théo Manval, qui n'est plus en Pologne, mais qui est en ligne avec nous. Bonjour Théo.
Bonjour Sophie.
Cette pollution, est-ce que vous l'avez ressentie sur place ?
Oui, on la voit hein, vraiment, cette ligne brumeuse un peu grise qui s'étend sur l'horizon. On le sent aussi, il y a l'odeur quand vous vous promenez le soir et que les chauffages effectivement ont été enclenchés. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui ont installé des applications sur leur téléphone pour connaître la qualité de l'air avant de sortir. Ils sortent parfois avec un masque, notamment les cyclistes.
Comme à Pékin, quoi.
Exactement. Écoutez Nicolas, par exemple, c'est un Français, il est installé depuis 5 ans à Varsovie et il nous détaille avec son téléphone le menu du jour en termes notamment de particules fines.
La qualité de l'air, elle n'est pas terrible. On voit qu'en taux de PM2,5, on est à 39, alors que la limite normalement imposée, c'est 25. Et que pour le PM10, on est à 80 et la limite, c'est 50. Donc on est déjà au-delà des limites, alors qu'on est assis à une terrasse qui fait relativement beau aujourd'hui.
Quels sont les conseils du coup donnés par une journée comme celle-ci dans l'application ?
Aujourd'hui, c'est pas recommandé de courir. Pas prendre le vélo pour faire de longues distances ou alors en tout cas porter un masque. Et il conseillait mettre en marche le purificateur et ne pas ouvrir les fenêtres dans son appartement parce que voilà, on risque finalement de respirer un air plus pollué que celui qu'on peut avoir chez nous.
Voilà, on peut même plus ouvrir les fenêtres un certain jour.
Sympa.
Je vous donne un autre exemple, Sophie. La qualité de l'air à Katowice, en Silésie, là où démarre la COP aujourd'hui, c'est le plus grand bassin minier d'Europe. Et ces derniers jours, le taux de particules fines de 2,5 est 4 fois au-dessus des normes européennes de la qualité de l'air. Et c'est là que les chefs d'État viennent parler du climat.
Il faut rappeler les volumes, Théo. En Pologne, on extrait 70 millions de tonnes de charbon chaque année. Ça reste 2 fois moins qu'en Allemagne, mais c'est encore énorme. Et l'objectif de produire 15% d'énergie renouvelable en 2020 ne sera certainement pas atteint.
Ben non, puisque vous l'entendiez aujourd'hui, cette part du renouvelable, elle baisse. Ici, on est passé sous les 12% à cause du poids, on en a parlé, du lobby industriel, les grandes entreprises du charbon, mais aussi les syndicats. Il y a quelques années, un responsable de l'Alliance des syndicats polonais disait à propos des accords climatiques, ce n'est pas à l'ONU de décider de l'avenir des mineurs polonais. On a longtemps accusé ici les écologistes, et c'est encore tenace, de vouloir menacer les 100 000 emplois du charbon en Pologne. Alors le discours est peu à peu en train de s'infléchir, notamment sous la pression des habitants qui créent de plus en plus d'associations pour interpeller les politiques.
Pression citoyenne. Justement alors, est-ce qu'il y a des villes où ça bouge, où les choses changent ?
Oui, par exemple à Cracovie, où la région a décidé, avec les aides européennes, de faire remplacer toutes les chaudières à charbon chez les habitants pour mettre en place des systèmes plus propres. Ça représente 30 000 chaudières quand même. Mais ce qu'on voit aussi, c'est plus de contrôle à Varsovie, des patrouilles de police que vous pouvez appeler pour faire verbaliser ceux qui brûlent des déchets. Si une odeur étrange sort de la cheminée de vos voisins, par exemple, il paraît qu'il y aura même bientôt, Sophie, des drones pour ça, pour contrôler la qualité des fumées.
Alors tout ça, ce sont des initiatives locales. Mais le signal envoyé par le gouvernement, on l'a entendu dans votre reportage, ça reste quand même « donnons le temps aux industriels du charbon pour qu'ils puissent continuer à vendre le plus polluant ».
Mais c'est vrai, et la semaine dernière, le gouvernement polonais a aussi présenté son programme énergétique pour les années qui viennent. Figurez-vous que le charbon va rester le combustible de base du pays jusqu'en 2060. Les fermes éoliennes pourraient même disparaître. Or, on le rappelle, la Pologne représente aujourd'hui 10% des émissions de CO2 de toute l'Europe. C'est autant que la France, sauf qu'il y a deux fois moins d'habitants en Pologne.
Ouais, au passage, on se dit qu'on n'est pas très bon non plus. Merci beaucoup Théo pour toutes ces précisions. Et bah, à très bientôt dans les carnets.
Merci à vous, à bientôt.
Europe 1.
À suivre, charbon toujours, mais plus que pour quelques jours pour les tout derniers mineurs de fonds allemands.
Europe 1.
13h12, vous écoutez Sophie Larmoyer et maintenant, dans les carnets du monde, on va continuer à parler du charbon avec vous Sophie Larmoyer, mais d'un tout autre point de vue en Allemagne.
Figurez-vous que dans quelques jours, le 21 décembre prochain, le travail va cesser dans la toute dernière mine de charbon d'Allemagne. Les excavatrices vont se taire à jamais. 15 ans après la France, 3 ans après la Grande-Bretagne, c'est au tour de l'Allemagne d'en finir avec la production de houille. Vous savez, la houille, c'est ce charbon de haut rang qu'on va chercher dans les profondeurs et qui est à forte teneur en carbone, contrairement à la lignite qui est le charbon bas de gamme. Une page se tourne et une région entière, la Ruhr, se demande comment elle va garder sa culture à moins 1250 mètres sous la terre avec les derniers mineurs de fonds allemands dans la mine de Bottrop. C'est un reportage d'Hélène Kohl.
C'est le début de la journée de travail. En sortant des vestiaires, les hommes du puits de Bottrop ont changé d'allure. Ils marchent plus droit, la tête plus haute. Ici, chausser le casque et embarquer la lampe sur l'épaule est une fierté. La chemise bleue rayée au col droit est la même depuis des décennies. Le ceinturon de cuir aussi. Les mineurs s'installent dans la cage. 80 hommes d'un coup, serrés dans le noir déjà, avant même que la grille ne se ferme. Et la descente commence. 100 secondes au total, à pleine vitesse, sur une plateforme qui vibre.
Nous descendons à 12 mètres par seconde. On fait du 43 km/h. Nous sommes environ à 1000 mètres de profondeur. On va encore 230 mètres plus bas.
On sort au 7e sous-sol, un large corridor bien éclairé, bien aéré. Aucune mine au monde n'est allée aussi profond. De là partent des galeries que l'on parcourt dans des wagonnets suspendus. C'est tout au bout, à 30 minutes de trajet en monorail, que le travail est le plus dur dans la chaleur et la poussière. Klaus Putz, 49 ans, fait le décompte. Plus que 10 jours de mine pour lui.
Tous les jours, un ou deux mineurs raccrochent le casque et quittent la mine à jamais. Tous les jours. Moi, je ne me projette pas vraiment encore. On verra bien. Financièrement, ça va aller. On a tous droit à de bonnes compensations. Mais je crois bien que je vais souvent me planter devant la porte de la mine, juste pour voir les collègues finir de fermer les galeries. Il y a quand même un peu de mélancolie, oui.
Ce jour-là, au fond, il y a aussi Christophe Baikel, le porte-parole de la mine. C'est un petit homme trapu, optimiste. Il assure que la fermeture du site, que l'entreprise prépare depuis 11 ans, va être un modèle du genre, écologiquement et socialement.
Nous sommes en train de remonter tout ce qui est en plastique, tous les néons, tous les câbles électriques. On en a encore pour un an et demi. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a encore besoin de mineurs, même si c'est un peu triste de voir un mineur démonter lui-même son poste de travail. Mais la majorité d'entre eux sont partis ces dernières années avec le plan de départ en pré-retraite. Mais on doit encore trouver une reconversion pour quelques centaines. On n'a aucune inquiétude, on va leur trouver un bon boulot.
La mine est passée de 6000 salariés à 1500 en quelques années. L'industrie sidérurgique, mais aussi la chimie ou les chemins de fer ont récupéré beaucoup de mineurs. Klaus Putz est confiant lui aussi.
Les collègues qui sont partis travailler dans d'autres industries nous racontent ce qu'on dit sur eux. Et les retours sont toujours positifs. Parce qu'un mineur sait tout faire. Il bosse bien en équipe. Il n'a évidemment pas peur de se salir. Ça fait chaud au cœur d'entendre ça. Ce sont nos valeurs, notre culture commune. Je pense qu'on réussit à les transmettre.
À l'écart, Dirk Erbra, un grand gaillard carré et plus réservé.
Pour les jeunes, ceux qui n'ont pas encore fait 25 ans de mine, là oui, on fait tout pour leur trouver un travail ailleurs. Mais moi, je ne rentre pas dans la case. J'ai 49 ans, je ne sers plus à rien. Alors ça fait mal, c'est la merde. Mais bon, à la station-service à côté, ils cherchent toujours des gens. Je vais aller voir là-bas si je ne peux pas prendre un job à 400 euros.
Comme Klaus, Dirk appartient à la troisième génération de mineurs dans sa famille. La mine, c'est toute sa vie. Il est né dans un hôpital financé par l'entreprise Krupp. Il a grandi dans le coron, bercé par les histoires que racontaient les hommes quand ils remontaient à la surface. À l'époque, la Ruhr comptait 62 puits et plus de 260 000 mineurs. Depuis, les conditions de travail se sont considérablement améliorées, notamment en ce qui concerne la prévention des risques sanitaires. Par exemple, on a complètement éradiqué la silicose. mais la mine continue de broyer les travailleurs.
Imaginez que je cherche du travail dans une entreprise privée dans la région. Qu'est-ce que je réponds quand on me demande ce que j'ai fait avant? Que j'ai bossé 25 ans au fond de la mine? Là, ils me disent direct merci, au revoir, hein, parce qu'ils savent très bien que ceux qui ont passé 25 ans au puits ont tous des problèmes physiques. Regardez ces piliers, ils ont une longueur de 3,40 m, ils pèsent 40 kg par mètre et on les dresse tous à la main. Il n'y a pas de grue dans les galeries, hein, c'est étroit, et sur 450 mètres, on fait tout à quatre pattes. À un moment donné, on a les genoux pétés.
Et pourtant, Dirk voudrait bien continuer à trimer au fond du puits. Les réserves de houille dans la région permettraient encore 400 ans d'exploitation minière. Et même si on ne le brûle plus, pour des raisons environnementales, pourquoi ne pas continuer à utiliser le charbon pour faire de l'acier, par exemple? Il ne comprend pas.
Franchement non, mais c'est une décision politique. On aurait pu continuer l'extraction, c'est clair. Ils doivent avoir une bonne raison de l'arrêter.
La réalité, c'est juste que le charbon allemand est trop cher. Les conditions de travail obtenues par les mineurs de la Ruhr au fil des décennies sont les meilleures au monde, mais elles ont un prix. Ici, une tonne de charbon coûte 250 euros contre 80 seulement chez la concurrence étrangère. Reinhold Adam, 76 ans, vétéran de la mine.
Et pourquoi ça? Parce que ce sont des esclaves qui travaillent? En Chine, chaque bloc de charbon est gorgé de sang. Je ne le répéterai jamais assez. Ici, nous avons les mines les plus modernes et les plus sécurisées du monde. Et elles doivent fermer. C'est toute une branche qui disparaît. Dire adieu est toujours difficile, mais aussi longtemps qu'un mineur vivra, alors la mine restera dans le cœur des gens. C'est important.
Une nouvelle équipe émerge des profondeurs. Les compagnons, comme ils s'appellent entre eux, viennent de passer 7 heures dans les galeries. Ils sont noirs de poussière, fatigués, mais ils rigolent, se tapent dans le dos, même s'ils ne parlent pas tous allemand. Et ils entament la remontée vers la lumière du jour. C'est ça aussi qui va disparaître, une ambiance unique de camaraderie, des expressions comme le célèbre Glück auf, qui veut dire à la fois bonjour et bonne chance, car au fond de la mine, la mort pouvait surgir n'importe quand.
Glück auf, der Steiger kommt, und er hat sein helles Licht bei der Nacht.
À la mine de houille de Bottrop dans la Ruhr, Hélène Kohl, Europe 1.
Retour à la surface avec Hélène Kohl, cette fois depuis Berlin. Bonjour Hélène.
Bonjour Sophie.
Alors qu'on entend encore un peu ce chant des mineurs de fond allemand, c'est très beau.
Oui, c'est toute l'âme de cette région industrielle, au point d'ailleurs que l'un des grands clubs de foot de la Ruhr, le Schalke 04, l'a pris comme chant de supporter.
Ok. Votre reportage mettait l'accent sur les mineurs, sur ce qu'ils vont devenir, mais on a aussi envie de savoir comment la région va encaisser la fin des mines de houille.
Alors quand même, il faut savoir que l'exploitation minière ne rapportait plus d'argent à la Ruhr depuis longtemps. C'était un secteur lourdement subventionné, mais ça va quand même être un grand choc structurel pour cette région d'industrie traditionnelle qui est contrainte de repenser vraiment toute l'organisation de son économie. Je vous donne un exemple. La ville à côté, c'est Bochum. Il y avait aussi une mine. La mine a fermé, on a misé sur les usines automobiles de Opel. Ouais. Puis Opel a fermé, on a misé sur les téléphones portables Nokia. Nokia a fermé, ça c'était il y a 10 ans, et là on s'est dit c'est plus possible de compter sur les grands groupes. On va plutôt parier pour promouvoir le réseau des PME locales et puis parallèlement développer les universités, les grandes écoles, tout ça pour renforcer la compétitivité. C'est aujourd'hui la stratégie industrielle du Land, mais évidemment c'est un pari.
La région, vous le disiez, a eu 11 ans pour s'adapter. Du coup, on entend que c'est un moment triste, mais qui n'est pas explosif sur le plan social. Pourquoi est-ce que l'Allemagne n'est pas capable de prendre une décision identique pour ces mines de lignite, ce charbon qu'on trouve en surface?
Oui, ces grandes mines à ciel ouvert qui engloutissent des régions entières, notamment à l'Est, et qui sont effectivement beaucoup plus problématiques parce qu'on s'en sert essentiellement pour le brûler. On brûle la lignite dans ces fameuses centrales électriques très polluantes que les Allemands ont un petit peu partout sur le territoire.
En pleine COP, on a envie de savoir, est-ce qu'ils vont les arrêter? Quand?
Alors, ça fait en fait un an qu'on attend cette date, Sophie. La décision est sans cesse repoussée parce que c'est un débat très délicat, parce que la lignite fait vivre une grande partie de l'Est du pays qui se remet seulement maintenant du choc de la réunification. Des régions où l'extrême droite est très forte, elle joue sur les ressentiments, les peurs liées à la mondialisation. Bref, c'est un dossier politique explosif pour le coup.
À suivre, on en a déjà parlé, on en reparlera avec vous dans les carnets. Merci beaucoup Hélène Kohl pour cette plongée au fond de la mine et à très bientôt.
À bientôt.
Europe 1.
À suivre, la littérature étrangère dans les carnets. Le bon conseil du jour de l'ami Nicolas Caro est un roman serbo-bosniaque. À tout de suite.
Europe 1.
Les carnets du monde, c'est jusqu'à 14h sur Europe 1 avec Sophie Larmoyer. Il est 13h24, voici la chronique faite pour ceux qui aiment lire et voyager.
Un livre dans le monde ou comment la littérature étrangère nous fait voyager chaque semaine grâce à notre lecteur en chef, Nicolas Carreau. Bonjour Nicolas.
Bonjour Sophie.
Je crois que c'est une première cette semaine. Votre romancier est serbo-bosniaque.
Oui, et il écrit en allemand. Mais je l'ai lu en français, je vous rassure. L'écrivain s'appelle Sacha Stanišić.
Bien joué.
La Cosmopolite, la belle collection de romans étrangers de chez Stock, propose son recueil de nouvelles, Pièges et embûches.
Chouette les nouvelles.
Alors, ouais, il y a deux catégories de recueils de nouvelles, vous savez, Sophie. Ceux qui proposent des histoires autonomes, ouais, indépendantes les unes des autres, et ceux qui tissent comme une toile avec leurs différents textes, comme un album de musique qu'il faut écouter dans l'ordre. Ben là, c'est pareil.
C'est une longue histoire ?
Non, les histoires ne se suivent pas, mais c'est comme un chemin, si d'accord, vous voulez. Il y a une cohérence dans leur position. Et en matière de cohérence, pourtant, vous allez voir, c'est pas toujours évident avec Sacha.
Donc vous nous en racontez une, là.
La première, tenez, l'histoire d'un magicien, un apprenti magicien même, sexagénaire. Il s'appelle Ferdinand Klingenreiter. Il va présenter son tour dans une salle communale avant que la chorale n'arrive. Lui, c'est un peu la première partie. Il a conçu son tour tout seul. Il a fabriqué une boîte en bois exprès, une boîte truquée évidemment. Il est heureux comme un gamin à Noël. D'ailleurs, il est venu avec un gamin, son petit neveu, 14 ans, qui est enfoncé dans son siège, les mains dans les poches. Vous savez, c'est l'archétype de l'ado blasé, je sais pas. Tandis que Ferdinand, eh bien, il est content, lui, d'être sur la scène, qui d'habitude laisse pourtant tout le monde indifférent. Ouais. Mais comme il dit, il faut aussi une forme de talent pour laisser les gens indifférents. C'est pas une belle phrase d'écrivain, ça ?
C'est un peu désespéré aussi.
Un peu. Mais Ferdinand s'est habitué. En plus, il ne laisse pas tout le monde indifférent. Ouais. Par exemple, Kate, sa compagne, il ne la laissait pas indifférente du tout. Ça, c'est sa fierté. Bon, en attendant, il est là, prêt à faire son tour, avec parmi les spectateurs son petit-neveu amorphe. Il aurait bien voulu un peu de musique, Ferdinand. Là, c'est un peu angoissant parce qu'il y a un grand silence. Le tour commence finalement, il dit « Mesdames, messieurs, etc. » Et puis, il demande un volontaire, comme dans tous les tours de magie. Mais là, personne ne répond. Angoisse totale. Je ne vous raconte pas la fin, mais peut-être que le petit-neveu n'est pas si blasé qu'il en a l'air. C'est une nouvelle très émouvante et très drôle aussi.
On rit beaucoup en lisant ce recueil ?
Aussi. Ouais. On rit parce que Sacha Stanišić brouille sans arrêt les pistes. On alterne entre des histoires très bien écrites, mais de facture plutôt classique, à des sortes de rêves éveillés, comme celle intitulée « Mots et moi tout au long du voyage ». Les pérégrinations dingues de deux amis, on les suit, mais il faut s'accrocher. Ils passent de l'Islande à la Russie, sans transition, et ça commence en Suède comme ça. Première phrase. Mo et moi à une fête privée avec vue sur le port de Stockholm. Si on saute du balcon en prenant son élan, on atterrit mort sur un yacht.
Voilà. Ils sautent pas quand même.
Non, non, mais ils sautillent tout au long de leur voyage. Un voyage de plus en plus absurde, mais poétique. Ça se rapproche un peu du réalisme magique, vous savez, qui mêle réalité brute et situation inconcevable tout d'un coup. Françoise Toraille, la traductrice du livre, nous en dit un peu plus.
On est dans un réel transfiguré, on n'est pas dans un réel réaliste. Et ça perdure à travers ces différents livres. Et effectivement, bon, je pense à une nouvelle qui est celle du personnage qui s'appelle Horvat, qui démarre en avion, qui va au Brésil, mais qui du Brésil repart en Roumanie, etc., etc. Avec un personnage qui tantôt s'appelle Horvat avec H-O-R-W-A-T-H, et puis tantôt c'est le même dans le paragraphe suivant avec un V. Bon, il y a un autre récit, c'est tout le complexe qui tourne autour du personnage de Mo. Il y a des passages où il rencontre un dieu du voyage en Finlande, Tapio. Bon, on est évidemment pas dans une description réaliste sur des thématiques qui peuvent être, elles, très concrètes.
Et on comprend tout quand même ou on se perd ?
Alors non, attention, c'est parfaitement compréhensible.
D'accord.
Mais il y a des pas de côté, si ouais, vous voulez. Des situations fantasques, parfois, ou loufoques. C'est très original, c'est inédit. Voilà, ça tient peut-être au profil de Sacha Stanišić, serbo-bosniaque donc, mais qui écrit en allemand. Il est atypique, voilà pourquoi.
La famille, à savoir le père, la mère, l'enfant, quitte le pays, passe par Sarajevo et puis se retrouve en Allemagne. Il est donc scolarisé dans une classe de transition et puis il est confronté à la langue allemande. Et il est placé ensuite à peu près à l'âge de 17 ans devant un choix. Les parents sont placés devant le même choix. Retourner au pays parce que la paix est revenue ou partir plus loin ou rester. Lui, il reste et il fait des études de littérature, d'écriture, etc. Et il écrit et publie en 2006, donc tout jeune, un premier roman. C'est un roman qui a eu un grand, grand, grand succès, qui a été traduit dans plus de 30 langues. qui l'a confirmé, disons, dans ce désir d'écriture.
À suivre donc pour son troisième livre.
Je serai vigilant. Sophie.
Je compte sur vous. Piège et embûche donc de Sacha Stanišić. En attendant, chez Stock. Merci Nicolas, merci pour tout.
Merci Sophie. Europe
1. Notre prochaine destination, c'est la plaine de la Beka au Liban. On part à la rencontre de réfugiés syriens, plus préoccupés par leur quotidien que par un éventuel retour.
Europe 1.
Suite des Carnets du Monde avec Sophie Larmoyer, il est 13h32. On va à présent braquer nos projecteurs sur les Syriens réfugiés au Liban.
Un nouveau round de pourparlers sur la Syrie, le 11e, s'est tenu cette semaine à Astana, au Kazakhstan, sans résultat. Avec des émissaires russes, turcs, iraniens, des représentants de Damas et une délégation de l'opposition tolérée par le régime. À l'ordre du jour notamment le retour des réfugiés alors que les combats ont cessé dans une partie du pays. Le problème se pose particulièrement au Liban, voisin de la Syrie, puisque c'est le pays qui accueille le plus de réfugiés. Proportionnellement à sa population, il y aurait là-bas 1,5 million de Syriens. Sur place, notre envoyé spécial Jean-Jacques Herry a constaté que pour beaucoup de ces exilés, le retour reste une utopie. Ils sont concentrés sur leur vie quotidienne dans les camps de réfugiés. Reportage près de Bar Elias, dans la plaine de la Beka.
De loin, sous le soleil, le mélange des tôles et des bâches blanches forme des petites taches agrippées aux collines. Nous sommes près de Bar Elias, dans la plaine de la Beka. La Syrie est à peine à 12 km, juste derrière les montagnes. Mais dans les nombreux camps, aucun réfugié n'évoque un retour. Chacun reste concentré sur ses tâches quotidiennes, sur sa survie. Le long d'une allée poussiéreuse, Ziad accepte de nous faire visiter son préfabriqué. La porte en tôle s'ouvre sur une petite pièce d'à peine quelques mètres carrés. Au plafond, des fils électriques qui pendouillent. Au sol, juste quelques paillasses.
C'est ici qu'on dort et qu'on vit. Dans la maison, je suis là avec ma femme et mes trois enfants. C'est une petite cabane avec une cuisine et une salle de bain. Il y a une petite entrée. Ici, on en a fait une extension pour avoir une petite chambre en plus. L'hiver, c'est dur. Il fait très froid. Le prix du fioul, du mazout, augmente. Ça coûte cher de chauffer. Je cherche un travail, mais c'est dur. J'ai une prothèse parce que j'ai été blessé dans un bombardement en Syrie. Personne ne va embaucher un amputé de la jambe.
À l'entrée du village de Tôle, c'est une longue queue qui s'étire derrière un camion de distribution alimentaire. Dans la file d'attente, les démarches des hommes sont souvent hésitantes. Certains boitent, d'autres sont borgnes. La guerre a trop meurtri les corps. Aucun espoir de travail pour eux non plus. Alors il faut s'en remettre aux aides de l'ONU, la Chayane, fataliste. Il vit ici depuis un an et demi avec sa femme et ses cinq enfants.
Je ne travaille pas parce que j'ai un problème au niveau des disques. Je paye un loyer de $70 par mois. Avant, c'était seulement 50. Mais heureusement que je touche des aides alimentaires. $27 par personne. C'est ça qui m'aide.
Même pour les réfugiés valides, la loi libanaise limite les possibilités. L'économie du pays est sinistrée. Avec un taux de chômage estimé à presque 30%, les Syriens ne sont officiellement autorisés à travailler que dans trois secteurs, l'agriculture, le bâtiment et le ramassage des ordures. Partant de ce constat, une ONG libanaise, Arc-en-Ciel, a eu une idée, impliquer les femmes syriennes en les formant et en les aidant à lancer une affaire. Iman a été l'une des premières à en profiter. Elle vend maintenant des falafels et des friandises dans une cahute à l'entrée du camp.
Je ne travaillais pas avant. En prenant des cours, j'ai appris à monter une affaire, à faire et à calculer les bénéfices en prenant en compte le prix du pois chiche pour faire mes falafels. Grâce à ça, notre situation économique est meilleure. Je peux acheter des vêtements pour ma famille. Je peux aussi payer le transport pour aller à l'école.
Pour Iman, tout a commencé dans une salle de classe de l'ONG. À quelques kilomètres de là, nous y retrouvons une vingtaine de femmes. Toutes scrutent attentivement le tableau blanc où s'inscrivent des formules mathématiques. Faraj est arrivée au Liban il y a 7 ans. Elle décrit son futur magasin de vêtements comme une nécessité.
Mon mari et ma famille me soutiennent. Mon activité va rapporter de l'argent à notre foyer. Ici, on a tellement de dépenses. C'est très dur de travailler. Mon mari n'est embauché dans la construction que 5 jours par mois. Je n'ai pas le choix, je dois aider ma famille. Je vais ouvrir un magasin de vêtements dans notre maison.
Toutes ces femmes seront suivies par l'ONG sur plusieurs mois, voire plusieurs années, pour mener à bien leurs projets. Des projets qui montrent surtout que pour l'instant, et pour un grand nombre de réfugiés syriens, l'avenir immédiat, c'est...
Retour dans le studio d'Europe 1 avec Jean-Jacques Héry, qui est rentré du Liban. Bonjour Jean-Jacques.
Bonjour Sophie.
Alors on vient de l'entendre dans votre reportage, pour beaucoup, rentrer chez eux, ça n'est pas la priorité, mais est-ce qu'on sait quand même combien sont repartis en Syrie ?
Mais écoutez, les autorités libanaises parlent de 55 000 réfugiés rentrés chez eux. Alors la grande majorité serait rentrée tout simplement en traversant la frontière, et 7 000 personnes seraient, elles, rentrées dans le cadre d'accords passés entre le Liban et le régime de Bachar el-Assad. Les réfugiés peuvent rentrer par la route et ça se passe dans des bus affrétés par Damas. Mais pour l'instant, tout ça reste du compte-gouttes.
Oui, c'est ça, 55 000 sur 1,5 million, c'est peu. Hein.
Oui, c'est sans doute parce que pour y arriver, il faut présenter un dossier et Damas se réserve le droit de refuser certains dossiers, celui des anciens rebelles par exemple. Et puis, il ne faut pas oublier non plus que pour les exilés, il y a quand même beaucoup d'interrogations sur ce qui se passe de l'autre côté de la frontière. La peur d'être arrêté, la peur aussi d'être enrôlé et de devoir remplir ses obligations militaires. Et puis une chose très simple aussi, la crainte de se retrouver à la maison, certes, mais au chômage et face à la pénurie.
Alors ces retours, on comprend, sont peu nombreux, mais ils sont pourtant très médiatisés au Liban.
Oui, absolument. La presse et la télévision s'en font régulièrement l'écho, tout simplement parce que le gouvernement libanais a besoin de montrer à son opinion publique que oui, il agit pour réduire progressivement le nombre de réfugiés sur son sol. Et c'est vrai, en tout cas, que la présence d'un si grand nombre de réfugiés dans le pays a forcément des conséquences. Prenez le système de santé libanais, par exemple. J'ai rencontré au cours de mon voyage le docteur Firas Abiad. Il est directeur général de l'hôpital Rafik Hariri de Beyrouth. C'est le plus grand centre hospitalier public du pays. Écoutez ce qu'il m'a dit.
Des ressources de santé qui étaient prévues pour 3 millions de personnes doivent maintenant être suffisantes pour plus de 4 millions. On doit partager les ressources. Et c'est notre devoir. Mais ça devient très compliqué pour les patients libanais ordinaires. Surtout que l'on ne voit pas la fin de ce conflit. Et les ressources se font de plus en plus rares. Ce qui est important que le reste du monde comprenne, c'est que ce défi devient de plus en plus difficile pour le Liban tout seul.
On a entendu dans votre reportage, Jean-Jacques, des femmes qui créent leur activité, qui font vivre finalement leur famille dans les camps. Il y a pas mal d'associations qui les soutiennent, qui les aident.
Oui, parce que les femmes, en fait, elles sont au cœur de ce conflit. On l'oublie parfois. Et elles aussi souffrent évidemment énormément. Et ça, j'ai pu m'en rendre compte en visitant un centre de Caritas au Liban. C'est un centre fermé qui accueille des femmes syriennes qui souvent ont subi des violences physiques, des violences sexuelles et qui essayent, tant bien que mal, de se reconstruire avec l'aide d'une équipe humanitaire qualifiée et des psychologues aussi, évidemment. Parce que bien sûr, quand on subit de telles violences, les mots ont du mal à être prononcés. Il faut du temps, beaucoup de temps pour libérer la parole. Et du temps, c'est ce qu'offre ce type de centre. Et il y en a plusieurs dans le pays.
Et il faut noter quand même qu'ils n'accueillent pas que des victimes de la guerre. Hein.
Non, il y a aussi des domestiques qui souvent viennent d'Afrique de l'Est ou des Philippines et qui sont venus travailler au Liban,
qui ont été
maltraités, abusés par leurs employeurs. En clair, des esclaves modernes. Et elles aussi peuvent profiter de ce nouvel environnement pour échapper à leur ancienne vie.
Merci Jean-Jacques pour ce coup de projecteur au cœur des camps de réfugiés au Liban. À
Merci
bientôt.
À vous.
Europe 1.
Il symbolise la paix, c'est un emblème des civilisations méditerranéennes. L'olivier peut vivre plus de 1000 ans, pourvu qu'on s'en occupe. On va vous raconter l'histoire d'un village en Espagne qui revit grâce à eux et surtout grâce à une excellente idée.
Les carnets du monde sur Europe 1. Europe 1. Avec Nico Saliagas sur Europe 1.
Contre-champ sur l'événement.
L'édition spéciale animée par Nico Saliagas en direct de l'Aude continue. C'est à vous, Nikos. Vous êtes actuellement à Villegayen.
Mise au point sur votre actualité.
Bonjour, monsieur le président.
Bonjour.
Nous ne sommes pas à l'Élysée. Nous ne sommes pas dans les studios d'Europe 1. Nous sommes à Verdun.
Gros plan sur votre quotidien.
Information Europe 1 ce matin dans la matinale.
La matinale de Nico Saliagas.
2 heures d'infos en haute définition.
Rendez-vous demain de 7h à 9h sur Europe 1.
Europe 1.
Le dimanche de 13h à 14h, on ouvre les carnets du monde avec vous, Sophie Larmoyer. Et maintenant, on va prendre la direction de l'Espagne à 13h40, l'Espagne rurale.
Avec le mouvement des Gilets jaunes, on parle aussi de l'abandon des zones rurales, les zones périphériques comme on dit. Eh bien, c'est dans une région un peu comme ça qu'on vous emmène maintenant, mais en Espagne, en Aragon précisément. Région dépeuplée, à mi-chemin entre Madrid et Barcelone. Là-bas, une initiative originale est en train de relancer l'économie d'Oliette, petit village de 350 habitants. Il s'agit d'un programme de parrainage d'oliviers. Lancé il y a 4 ans, ce projet est un franc succès. Henri de Laguerie est allé s'en rendre compte sur place. Voici son reportage.
Des oliviers à perte de vue, des collines de terre ocre et au loin, le petit village d'Oliété avec ses quelques maisons et le clocher de son église. Nous sommes en plein cœur de l'Aragon, l'une des régions les plus désertiques d'Europe, avec 7 habitants au kilomètre carré, une densité comparable à celle de la Laponie. En ce samedi matin glacial de novembre, du haut d'un terre-plein, Alberto, la quarantaine, joue le guide devant une vingtaine de visiteurs.
Vous voyez tous les oliviers en face, ceux qui sont vert foncé, eh bien, on les a sauvés. Mais ceux dont les feuilles sont plus foncées, un peu marron, n'ont pas encore été récupérés. Et puis il y a aussi les murets en pierre. C'est important de les conserver et de les rénover pour stabiliser le terrain.
Autour d'Oliété, près de 100 000 oliviers étaient à l'abandon des champs entiers, victimes de l'exode rural. Face à ce gâchis, il y a 4 ans, Alberto Pardomingo, cadre dans les télécommunications à Madrid, se lance dans un pari fou, tenter de les sauver en faisant appel à des mécènes. Il lance alors Apadrina un Olivo, parraine un olivier. Le principe est simple, moyennant un don de 50 euros par an, les parrains se voient attribuer un arbre à leur nom, ils reçoivent 4 bouteilles d'huile d'olive produites localement, ils peuvent également rendre visite à leur arbre ce week-end-là. Les donateurs viennent du Pays Basque, d'Andalousie, de Madrid et même de France, des parrains qui reçoivent des nouvelles de leur filleule tous les mois.
Chaque olivier a son QR code inscrit sur une étiquette. À travers l'application Mon Olivier, on scanne ce code et on envoie ensuite au parrain une photographie du processus de récupération. Ici, par exemple, c'est l'olivier d'Inès et de Nati, le numéro 279 du champ de la vallée.
En 4 ans seulement, le projet a reçu le soutien de 2500 personnes. Chaque mois, Alberto organise ce week-end de visite pour les parrains. Pierre et Jeanne vivent en Bourgogne, retraités. Ils sont venus passer quelques jours en Aragon pour faire connaissance avec les 3 oliviers qu'ils parrainent, un pour chacun de leurs petits-enfants.
Bah, moi, j'ai l'application sur mon téléphone, donc oui, je regarde régulièrement. Je regarde le temps qu'il fait, la température qu'il fait. Moi, je sais pas comment dire, mais je suis ému d'être venu et d'avoir découvert ce village et puis ces gens qui sont extrêmement sympathiques.
C'est émouvant. C'est émouvant parce que on pense qu'on a fait un bon geste, enfin qu'on a fait une bonne action, mais pas du tout intéressé, mais pour aider les gens du coin. Effectivement, l'Espagne devient dans beaucoup d'endroits un désert et on trouvait très intéressant que des gens donnent de l'importance à leur à leur patrimoine. Et on a vu que ça avait créé quand même un certain nombre d'emplois. Donc si ça permet à certaines personnes de rester dans leur village pour vivre, moi je trouve ça très intéressant.
Et c'est bien le cœur du projet d'Alberto, empêcher la mort annoncée de son village d'enfance. Avec parraine un olivier, il a créé 8 emplois à plein temps. Carlos, 36 ans, est l'une de ses dernières recrues.
Moi, je ne viens pas de la campagne. Je vivais à Barcelone, mais mon entreprise a fermé. Or, je n'avais pas droit au chômage, ni à aucune prestation sociale. J'étais donc dans une situation assez compliquée, avec 3 enfants en bas âge. Et c'est à ce moment qu'Alberto est apparu avec son projet. Il m'a donné ma chance et m'a aidé à me former pour devenir le responsable du moulin huile. Ici, j'ai obtenu une stabilité professionnelle, un travail qui me permet de vivre dignement. C'est une entreprise très humaine, très sociale.
Les 3 restaurants d'Oliété, les quelques chambres d'hôtes de la région et l'épicerie profitent des visites ponctuelles des parrains. Au programme, découverte du moulin, dégustation de produits locaux, promenade dans les ruelles du village et visite guidée du petit musée d'Oliété pour le plus grand bonheur d'Alberto.
Les visites de parrains n'ont pas seulement lieu les week-ends. Certains viennent parfois spontanément en pleine semaine. Ça crée du mouvement dans le village. C'est un vrai projet d'économie circulaire durable qu'on a mis en place. Hier soir, lors du dîner, je disais aux parrains, si vous n'étiez pas venu ce week-end, le restaurant dans lequel nous sommes serait probablement fermé. Le musée ne serait pas ouvert non plus. En fait, c'est grâce à la petite graine qu'on a plantée que toutes ces choses arrivent.
Et en 4 ans, 7500 oliviers ont été adoptés. Il en reste plus de 90 000 à sauver. La tâche est immense, mais Alberto et ses associés sont persuadés d'être sur la bonne voie. L'entreprise solidaire s'est d'ailleurs diversifiée. En plus de l'huile, elle produit désormais des savons et des produits cosmétiques à base d'olive. À Oliété, en Aragon, Henri de la Guérie, Europe 1.
Retour dans le studio d'Europe 1. On est en ligne avec Henri qui est rentré à Barcelone. Bonjour Henri.
Bonjour Sophie.
On l'a entendu, ce projet a créé des emplois, il dynamise le village. Qu'en est-il des services publics ? On sait que c'est souvent le nerf de la guerre.
Oui, grâce à Parraine Anne-Olivier, bien, l'école du village est encore ouverte. Ouais. Dans les zones rurales en Espagne, il faut un minimum de 5 enfants pour qu'une école primaire continue de fonctionner. Et l'arrivée de Carlos, le responsable du moulin qu'on a entendu dans le reportage, a été décisive.
Il y a 5 enfants dans l'école, dont Claudia, mon aînée. L'année prochaine, c'est mon fils César qui fera sa première entrée et la suivante, ce sera le tour de mon petit dernier. Et puis, je sais que 3 familles avec des enfants s'intéressent au projet et pourraient venir ici. Ce sera merveilleux. Sans le projet, l'école aurait déjà fermé depuis des années.
Et puis, vous le savez, les bars et restaurants en Espagne, c'est presque un service public. Et grâce à ce projet, eh bien, il reste ouvert.
Henri, au-delà de ce village, on le comprend, c'est toute une partie de l'Espagne qui se vide de ses habitants. Est-ce que les autorités en ont conscience ?
Oui et non, c'est un sujet qui est dans le débat public depuis quelques années. Cette désertification saute aux yeux, d'ailleurs, lorsqu'on prend le TGV entre Madrid et Barcelone. Pour aller à Oliété, c'est d'ailleurs saisissant. Sur la route, on voit des villages entiers à l'abandon. Un lobby s'est créé pour tenter de sauver ces régions. Il réclame des aides fiscales pour inciter les entreprises à s'installer dans ces territoires et un plan pour améliorer les transports. Les députés ont créé une commission, un projet de loi est à l'étude, mais pour le moment, eh bien, ça n'avance pas.
Pour finir, Henri, concrètement, si on veut parrainer un olivier, on peut ? On fait comment ?
Oui, c'est très simple. On va sur apadrinaunolivo.org. Le site est en espagnol et en anglais, mais rassurez-vous, ce sera bientôt en français. C'est une bonne idée de cadeau de Noël. Ouais. Et puis, sur leur site, il y a, je vous invite à aller le voir, de très belles photos de ces oliviers, de cette magnifique région qu'est l'Aragon. Et puis, on peut aussi aider ce projet en achetant leurs produits afin de toucher un public un peu plus large. L'association a déclaré d'utilité publique, a lancé l'an dernier une plateforme de vente en ligne qui s'appelle miolivo.org.
Les adresses exactes de ces deux sites internet seront en bonne place, évidemment, dans le sommaire des carnets sur europe1.fr. Super initiative qui a fait boule de neige, donc. Merci beaucoup, Henri, et à très bientôt.
À bientôt, Sophie.
Europe 1.
Lundi dernier, justement, c'était la journée mondiale de l'olivier. Ça aurait pu intéresser l'ami Joseph Chovanec, fan des journées mondiales en tout genre. Mais demain, il y en a une autre journée mondiale qu'il ne pouvait pas rater. On retrouve Joseph dans un instant.
Europe 1.
Vous écoutez Sophie Larmoyer pour la suite des Carnets du Monde et c'est devenu au fil des années une bonne habitude. Avant de refermer les carnets, on fait un petit détour en Autistan.
C'est Joseph Chovanec qui a imaginé cette contrée unique, l'Autistan, et qui nous y emmène chaque dimanche. Bonjour Joseph.
Bonjour Sophie, bonjour à tout le monde.
Alors beaucoup d'érudition, pas mal de philosophie, un zeste d'autisme, voilà de quoi sont faits nos voyages avec vous. Avec le projecteur braqué cette fois sur la journée de demain, ce sera la journée internationale des personnes handicapées.
Oui Sophie, et pour moi le mot le plus important dans tout ça, c'est international. Car très curieusement, quasiment jamais on ne fait de perspective internationale sur ces thématiques que j'appellerais de biodiversité humaine. Mais c'est simple, en matière de handicap, il n'y a pas vraiment de mondialisation. Dès qu'on passe une frontière, même ces frontières jugées invisibles dans l'Union européenne, eh bien, les choses basculent totalement. On entre dans un autre monde. Ce sont des promesses de voyages riches en découvertes de surprises. Car la nouvelle carte du monde n'est pas tout à fait celle que l'on avait en tête.
Alors, vous nous emmenez où sur la carte, par exemple ?
Par exemple, dans des villages non occidentaux, en Afrique, en Océanie. Ce qui frappe le visiteur quand on y arrive, ce n'est pas tant que les poules volent ou qu'il n'y ait pas ou très peu d'électricité. C'est le nombre de types humains différents que l'on rencontre. Il est jugé totalement normal et anodin de croiser des personnes trisomiques qui vaquent à leurs occupations, qui portent un seau d'eau, que sais-je, d'avoir des métiers aussi adaptés à des gens autistes de tout profil. Je pense à des métiers de berger solitaire ou de chaman. Et parfois, c'est état d'esprit se retrouve même en ville. Je repense à ce jeune camarade marocain, personne trisomique 21, un détail relativement indifférent, c'est tout le charme de son histoire d'ailleurs. Et par ailleurs, il est étudiant en psycho à l'université de Casablanca et trilingue arabe, français, anglais.
Et cette situation est normale, c'est ça que vous soulignez.
Voilà, la clé de voûte, c'est d'une certaine façon cette banalité de la présence du handicap.
Si je reprends votre comparaison avec l'Occident là, que vous faisiez au début, c'est aussi le cas dans beaucoup de familles occidentales concernées. Est-ce que vous ne noircissez pas un peu le tableau, Joseph ?
Peut-être, je suis militant passionné. Mais ceci étant, des choses peuvent nous donner à réfléchir. L'autre jour, je lisais des articles où l'Islande, donc pays inclusif par excellence, modèle d'état social, se vantait d'avoir à peu près totalement réussi à éradiquer la trisomie 21, c'est-à-dire les personnes concernées. Et là, j'ai un frère frémissement nerveux. Je songe combien la présence de ces personnes m'est agréable à titre personnel, souvent d'ailleurs plus que celle de certaines personnes dites normales. Hein. Et je ne suis pas une exception. Beaucoup de mes camarades autistes ont un ami trisomique. Et c'est logique. Ces personnes ont souvent des qualités qui manquent dramatiquement à notre temps. Humanité, tolérance, affection, etc.
Il y a une semaine, Joseph, s'est achevée la semaine pour l'emploi des personnes handicapées. Est-ce que le bien vivre ensemble passe par là aussi, par le boulot ?
Et passe précisément par une place dans la société. Hein. Et justement, ces derniers jours, j'ai pu y réfléchir encore plus que d'habitude en rencontrant beaucoup de grandes entreprises internationales hein, lors de cette fameuse semaine. Ouais. Et j'ai découvert samedi dernier un nouveau métier pour autistes. Je dois vous avouer que je n'y avais jamais songé. Hein. L'histoire est celle de Yeni. Hein. C'est une jeune femme que je connais bien qui travaille chez Andros, le grand groupe français. Ouais. Hein. L'autre jour, un jeune homme autiste non-verbal, donc il ne parle pas, d'origine congolaise, subitement, s'est approché d'elle et a posé son index sur le ventre de la jeune femme. Hein. Alors, elle a bien sûr pris peur.
Ça surprend.
Oui, voilà. Elle a esquissé un mouvement de recul. Hein. Et le jeune homme autiste a alors prononcé un seul mot, « bébé ». C'était la première fois qu'elle entendait un son sortir de sa bouche. Stupéfaite, Yeni avait conclu un comportement aberrant ou que sais-je de la part du jeune homme autiste. Ceci étant, deux semaines plus tard, un test de grossesse lui confirmait qu'elle était bel et bien enceinte. Donc le jeune homme autiste l'avait deviné bien avant tout le monde et bien avant elle. Donc, en somme, quand on dit que dans 20 ans, la plupart des Français exerceront des métiers qui n'existent pas encore aujourd'hui, n'oublions pas que peut-être ces métiers exigeront aussi des profils humains qui, pour l'instant, sont encore absents de notre horizon mental.
Merci beaucoup, Joseph, de nous rappeler qu'on a toujours intérêt à élargir notre horizon.
Et à voyager.
Et à voyager, bien sûr. À dimanche prochain.
À très bientôt.
Europe 1.
C'est l'heure de refermer les carnets du monde. Merci de nous avoir accompagnés. Tous les grands reportages du jour, vous le savez, sont disponibles en podcast sur europe1.fr. Et bien, si vous vous abonniez au podcast des carnets. Merci à Julien Blanc qui a réalisé l'émission, à Florence Gimala qui m'a aidé à la préparer. On vous donne rendez-vous dimanche prochain, 13h, sans faute, pour de nouvelles vadrouilles. D'ici là, portez-vous bien.
C'était Sophie Larmoyer. À dimanche prochain, Sophie. À suivre, On de Latte raconte, un fait divers raconté par Christophe On de Latte qui a pour théâtre la Normandie Cormeille dans l'Eure. En février 2001, un parent d'élève s'aperçoit que depuis des années, une partie du village soupçonne l'instituteur de cours préparatoire Marcel Le Chien de tripoter ses élèves. Il décide donc de le livrer lui-même aux gendarmes et il incite les familles à porter plainte. Un récit à découvrir ou redécouvrir dans un instant sur Europe 1.